le magazine des Nations Unies.
Un million et demi d'enfants, dont 600 000 déplacés, affectés par la crise dans le Grand Kasaï. L'UNICEF parle d'un effet dévastateur et d'une situation préoccupante pour ces enfants en détresse. Le représentant ad intérim de l'UNICEF en RDC rentre d'une mission sur place. Il nous en dira davantage dans l'invité du magazine. Et puis l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI en action, pour rendre les secteurs industriels des pays de l'Afrique centrale performants, une opportunité saisie par le gouvernement congolais. Enfin, tolérance zéro en matière d'abus et exploitation sexuelle. La MONUSCO recense 5 cas au sein de son personnel. Les enquêtes sont en cours et les présumés auteurs sont suspendus de leurs fonctions.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de suivre le magazine des Nations Unies. Nous le disions en titre, la mission de stabilisation de la paix en RDC veut appliquer à la lettre les recommandations du nouveau secrétaire général de l'ONU sur la tolérance zéro en matière d'abus et d'exploitation sexuelle. Sa section discipline et conduite vient de recenser 5 cas au sein des staffs de la MONUSCO. Information livrée par Charles-Antoine Bambara, porte-parole ad intérim de la MONUSCO lors de la conférence des Nations Unies. C'était le mercredi dernier. Selon lui, les enquêtes sont en cours et les responsables de ces actes suspendus de leurs fonctions. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Ces différents cas se répartissent donc de la manière suivante. Du 1er janvier à ce jour, un observateur militaire Milob de Kisangani a eu une paternité avec une victime mineure. L'enquête est en cours avec OIOS, qui est le service des enquêtes internes des Nations Unies. La victime est prise en charge par l'UNICEF. Deux cas impliquent des internationaux à Kinshasa dont l'enquête est en cours également par OIOS. Les victimes sont prises en charge par le FUNIAP. Deux autres cas concernent des militaires sud-africains à Goma et Misafi. Leur pays a déjà envoyé une équipe d'enquêteurs qui sont arrivés en République démocratique du Congo le 17 avril dernier et commencé donc leur travail.
Autre actualité économique cette fois-ci, le secteur industriel congolais dispose désormais d'un cadre de restructuration et de mise à niveau dans le cadre d'un projet sous-régional financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI. Un atelier d'information a été organisé cet effet mardi dernier à Kinshasa. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
L'atelier a regroupé quelques représentants des groupes industriels opérant à Kinshasa, un atelier organisé par le ministère de l'Industrie dans le cadre du programme de restructuration et de mise à niveau de l'Afrique centrale, PEREMEN en sigle. Le gouvernement congolais attend beaucoup de ce programme sous-régional, comme l'indique le ministre sortant de l'Industrie, Marcel Ilunga Léo.
C'est un programme qui a pour objet de renforcer les capacités des entreprises ainsi que des unités industrielles pour leur performance et surtout leur compétitivité dans la chaîne de valeur au niveau national, au niveau régional ainsi qu'au niveau continental. Donc ce programme, c'est un programme très important pour la République et maintenant nous entrons dans sa phase de mise en œuvre.
La mise en œuvre de ce programme est assurée par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Son expert, M. Jean-Yves Singonzanga, explique quant à lui en quoi consiste la mise à niveau.
Il s'agit de préparer l'entreprise à faire face à la compétitivité au plan mondial, pour être en mesure d'exporter, être en mesure de se battre sur son marché, pour garder ses parts de marché au plan national. Donc, on travaille sur le point fort de l'entreprise et on essaie de régler les problèmes de faiblesse de l'entreprise. Ça apporte une amélioration sur tous les plans, la formation, le process industriel. Donc, c'est tous les aspects qui sont pris en compte. L'accès à l'information, c'est tout ça qui est pris en compte dans le processus de mise à niveau.
Outre la RDC, 6 autres pays de la sous-région de l'Afrique centrale sont concernés par le PEREMEN. Le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République du Congo, Sao Tomé-Principe et le Tchad.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'Organisation internationale des migrations est en République démocratique du Congo depuis 23 ans. Monsieur Jean-Philippe Chosy, le chef de mission de cette agence en RDC, brosse quelques programmes en cours dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Jean-Philippe Chosy, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est depuis 23 ans que l'OIM est présente en République démocratique du Congo. En gros, quelles sont les missions de l'OIM ?
Que fait l'OIM en RDC? L'OIM, depuis mon arrivée, qui remonte à août 2015, bien entendu s'intéresse aux dynamiques de déplacement dans l'est de la RDC et encore plus récemment dans les Kassai, avec des programmes qui sont financés par ECHO, qui sont financés par l'Agence suédoise de développement international, par l'agence américaine OFDA, qui sont des programmes que nous partageons aussi avec le HCR, puisque nous assurons par exemple la gestion de la moitié des sites des déplacés dans les Kivu. Nous avons aussi une approche qui est celle d'essayer de tracer les dynamiques de déplacement à travers un outil qui est spécifique à l'OIM, qui permet d'avoir une idée plus précise des déplacements dans des régions qui ne sont pas forcément accessibles. Et ça, c'est un outil que nous sommes en train de déployer aussi au Tanganyika et que nous déploierons, on l'espère, aussi dans les Kassai, pour permettre à la communauté internationale, à nos partenaires, d'avoir une meilleure idée et de pouvoir intervenir de manière plus efficace. Si on continue un petit peu dans l'est de la RDC, on a un grand programme qui a été lancé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, financé par le gouvernement des Pays-Bas, qui est un programme de consortium que nous menons avec plusieurs ONG internationales et avec, bien entendu, les comités provinciaux d'appui à la pacification, qui est un programme de dialogue communautaire, de règlement des conflits qui peuvent être des conflits liés aux fonciers, et pour faire en sorte que l'on puisse intervenir en amont des conflits ou qu'on puisse ensuite intervenir pour restaurer le dialogue et essayer de trouver des solutions à ces conflits qui peuvent être liés, par exemple, aux fonciers. Sur Kinshasa, on a un programme qui est quand même assez unique, qu'aucune autre agence ne fait en RDC, qui est un programme autour du secteur minier.
Et pourquoi un programme dans le secteur minier?
Parce que l'industrie extractive en RDC est fortement attractive. On a certainement des centaines de milliers de jeunes qui vont travailler sur les sites artisanaux, que ce soit pour l'extraction des 3T ou de l'or. Et donc, il y a des dynamiques migratoires qui sont très importantes autour de ces sites miniers, avec des problèmes qui sont liés, par exemple, à l'exploitation et à la traite des personnes, des femmes, des enfants, des mineurs, que ce soit à des fins de travail forcé ou d'exploitation sexuelle. Et donc, nous intervenons dans ce secteur pour justement valider les sites miniers, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne soient pas aux mains des groupes armés illégaux ou d'éléments du secteur de la sécurité qui seraient donc aussi sur ces sites, pour faire en sorte que des enfants ne sont pas exploités sur ces sites, des femmes en situation d'exploitation et autres, et pour mettre en place un système de traçabilité de ces minerais, car comme vous le savez, ces minerais ne peuvent pas être vendus, et l'or y compris sur le marché international, s'il n'y a pas un système de certification pour montrer que ce ne sont pas des minerais qui sortent de zones de conflit.
Quelles sont les actions concrètes?
Nous avons des équipes qui vont sur ces sites miniers, sur ces sites qui peuvent être aussi des sites artisanaux, et nous constatons de visu que ces sites ne bénéficient pas aux groupes armés, que ces sites n'emploient pas des mineurs, enfin des jeunes, quand je parle de mineurs, des jeunes, ou des femmes dans des situations d'exploitation. Il y a toute une grille d'analyse qui est mise en œuvre, et une fois qu'on a la certitude que ces sites miniers sont propres, entre guillemets, ils sont donc certifiés, ce qui permet à nos partenaires du ministère des Mines, eh bien ensuite de mettre un système que nous mettons aussi en place avec eux de traçabilité pour ces minerais qui peuvent ensuite être vendus.
Et à ce jour, Monsieur Chosy, quelles sont les provinces que l'OIM couvre en République démocratique du Congo?
Alors, nous avons bien entendu un grand bureau à Goma, nous avons un bureau aussi à Bukavu, nous sommes à Lubumbashi, à Bujimai et nous sommes aussi à Bunia. Comme d'autres agences, nous envisageons face à l'urgence au Kassai en ce moment, aussi de nous joindre à nos partenaires humanitaires pour éventuellement, quand les conditions seront réunies, avoir une présence sur, par exemple, Kananga qui nous permettrait d'intervenir par rapport aux besoins des populations déplacées. Car, comme vous le savez, l'urgence du Kassai a entraîné quand même des déplacements massifs de populations, des besoins qui sont considérables, puisqu'un appel flash devrait être lancé prochainement. Et là, nous essayons, avec nos partenaires, d'intervenir de manière pertinente par rapport aux besoins de ces populations déplacées.
Par rapport à ce thème des migrations avec l'actualité au monde aujourd'hui, quelles sont les actions pour les jeunes, par exemple, ici en RDC?
Alors, sur les RDC, je tiens à souligner que le programme que nous avons lancé avec un financement de la Suisse est un programme pilote très limité qui est là pour tester un concept. Donc nous appuyons en ce moment et nous aidons des jeunes à créer des petites activités génératrices de revenus pour faire en sorte que ces personnes puissent ensuite être indépendantes. On validera ensuite l'approche pour voir si elle fonctionne avant peut-être d'avoir une approche beaucoup plus générale. Mais il faut savoir, et vous le savez mieux que moi, que le problème du sous-emploi en RDC est un problème qui est quand même considérable. Nous travaillons avec nos partenaires au niveau des ministères pour voir si, dans notre modeste capacité avec ce programme pilote, on peut valider une approche, un concept.
Oui, ce programme pilote concerne quelle catégorie de jeunes et dans quelle province?
C'est essentiellement sur Kinshasa, uniquement sur Kinshasa. Ils sont des jeunes jusqu'à l'âge de mémoire de 27 ans.
Concrètement, ils font quoi pour les aider à créer des emplois?
Concrètement, nous avons demandé à ces jeunes de venir avec un projet d'activité qui est donc revu, analysé. On voit si ces personnes ont les compétences pour mener à bien ce programme. Et ensuite, c'est une aide en nature qui est apportée pour que ces jeunes puissent reprendre une activité économique qui soit productive. C'est une approche que l'OIM a mis en place dans toutes les régions du monde, notamment pour des migrants qui ont échoué dans leur tentative migratoire, qui se sont retrouvés par exemple en Libye, dans des situations d'exploitation extrême et qui optent pour le retour volontaire. Ça ne concerne pas les Congolais, mais ça concerne par exemple les Burkinabés, les Maliens, les ressortissants nigériens et autres. Et là, on constate que ces personnes, quand elles rentrent au pays après ces épisodes de migration irrégulière ou pour payer les filières, il a fallu vendre l'outil de production, le petit lopin de terre, ces personnes vont revenir au pays, à la famille, les mains vides. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les aider à remettre le pied à l'étrier, de les aider à recommencer une activité génératrice de revenus en leur donnant généralement les moyens physiques de reprendre cette activité économique.
En dehors de ce programme, quel autre programme en cours pour la RDC?
On a aussi des programmes qui sont typiquement dans la ligne de la migration, puisque nous essayons de voir quelles sont les compétences qui peuvent exister dans la diaspora congolaise de par le monde, pour faire en sorte que ces Congolais expatriés qui ont des compétences, pour faire en sorte qu'on puisse les aider à transférer ces compétences au pays. Donc on a fait par exemple une cartographie des diasporas congolaises au Canada, entre autres. Nous avons été en discussion depuis assez longtemps maintenant avec le vice-ministre des Congolais de l'étranger, pour voir comment concrètement on peut mettre en relation ces communautés expatriées qui ont du savoir avec des gens ici en RDC qui ont envie d'aller de l'avant et de créer par exemple des entreprises, mais qui n'ont pas forcément les compétences ou les réseaux nécessaires au lancement d'entreprises ici en RDC.
Monsieur Jean-Philippe Chosy, merci beaucoup.
Merci.
La FAO secourt des réfugiés sud-soudanais des communautés d'accueil dans le territoire de Dungu, province du Haut-Uele. L'organisation onusienne a mobilisé 800 000 dollars à cet effet pour renforcer les moyens d'existence de ces personnes à travers le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies. C'est depuis octobre 2016 que la FAO apporte une assistance humanitaire aux réfugiés sud-soudanais de la localité de Doruma en territoire de Dungu. Elle accorde également un appui aux communautés d'accueil afin de réduire les risques de tensions. Un pont jeté sur une érosion, un entrepôt communautaire, des produits agricoles et des hangars, ces ouvrages construits ou réhabilités dans le cadre d'un programme conjoint des Nations Unies ont été remis mardi 25 avril dernier aux autorités locales du territoire de Rutshuru. Il s'agit d'un projet exécuté par l'UNICEF, le PNUD, le PAM et l'ONU Femmes grâce à un financement du gouvernement japonais évalué à 4 millions de dollars américains. Le gouvernement congolais a collaboré à la réalisation de ce projet à travers l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP. Enfin, restons dans la même région de l'Est du pays, où près de 110 000 personnes ciblées pour une assistance du Programme Alimentaire Mondial, PAM, nous sommes dans les territoires de Beni, Rutshuru et Massissi au Nord Kivu. Une assistance en vivres planifiée pour la période allant du 24 au 30 avril 2017.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
1,5 million d'enfants, dont 600 000 déplacés, sont affectés par la crise dans le Grand Kasaï. L'UNICEF parle même d'un effet dévastateur sur les enfants. Docteur Tajuden Oyewale, représentant de l'UNICEF à d'intérim en RDC, rentre d'une mission dans cette région troublée du pays. Il est notre invité et répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Docteur Tajuden Oyewale, bonjour.
Bonjour.
Vous rentrez d'une mission dans le Grand Kasaï, région qui connaît une crise, comme vous le savez. Et quel a été votre constat sur le terrain? En d'autres termes, quelle est l'incidence de cette crise sur les enfants congolais qui sont dans les Kasaï?
Merci beaucoup pour votre question. If you don't mind, I would like to speak in English.
Okay.
Like you said, I just came back from Kasaï Central, where I was with our colleagues and staff who are in Kasaï working to address the situation of children.
J'aimerais répondre à la question en anglais. En ce qui concerne ma réponse, sachez que je viens de rentrer de la région du Kasaï et j'ai été en mission pour appuyer l'équipe au Kasaï qui, sur place, apporte une aide aux enfants en difficulté. Et je peux vous dire que la situation est particulièrement préoccupante au niveau des enfants. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a 1,5 million d'enfants qui sont affectés par la crise dans le Grand Kasaï, dont 600 000 enfants qui sont des enfants déplacés, et tous ceux nécessitent un appui à court terme.
Oui, on comprend que justement il y a une équipe de l'UNICEF sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait concrètement jusque-là en faveur de ces enfants qui sont en détresse, si vous voulez bien?
Merci pour votre question. Concretely now and on ground presently.
Je peux vous dire que pour l'instant nous avons donc des programme en route pour apporter une aide aux enfants en détresse. Ce sont des programmes que nous mettons en œuvre en partenariat avec nos partenaires sur le terrain, des partenaires gouvernementaux, des partenaires non gouvernementaux, des partenaires de la société civile. Et concrètement, aujourd'hui, nous avons 8 projets qui sont en route qui permettent d'atteindre 173 000 personnes en détresse, en difficulté, en attente d'aide dans les 3 provinces particulières touché, donc le Kasaï central, le Kasaï oriental. Et ce sont des programmes qui visent à apporter une réponse au niveau des soins de santé, au niveau de la nutrition et la prévention de la malnutrition, au niveau de l'aide psychosociale dont les enfants ont particulièrement besoin. En ce qui concerne l'éducation, nous essayons de garantir la poursuite de la scolarité des enfants pour les écoles ou dans les écoles qui sont encore ouvertes aujourd'hui. Et j'aimerais également ajouter que nous apportons également une aide au niveau du cash pour les populations en difficulté pour qu'ils puissent s'organiser et augmenter leur niveau de résilience.
Selon les rapports que vous avez ramenés, les enfants sont victimes des violences. Au moins 2000 d'entre eux sont utilisés par les milices. Existe-t-il des stratégies communes, par exemple avec la section protection de l'enfant de la MONUSCO, pour essayer pousser les milices à libérer ces enfants qui doivent être plutôt à l'école que dans les groupes armés?
Pour la situation des enfants qui associés aux miliciens, I think what is more important in this is that for UNICEF, child protection is the center of what we do.
Donc la réponse au niveau des besoins en protection des enfants est au cœur de la réponse que l'UNICEF met en place pour l'instant, particulièrement au niveau du Kasaï central, où nous mettons en place une réponse spécifique qui est adaptée aux besoins des enfants auxquels nous sommes confrontés. Nous apportons donc une aide psychosociale, une aide appropriée aux enfants qui inclut également, là où c'est nécessaire, la recherche de la famille et des parents d'origine. Nous nous assurons d'aller au-delà de la réponse traditionnelle et classique en incluant par exemple également une attention au niveau de la santé mentale puisque ces enfants ont vécu des situations particulièrement traumatisantes et que nous voulons nous assurer que la réponse que nous avons mise en place est une réponse qui à long terme est efficace.
Mais je reviens, Monsieur Olewale, sur le problème des enfants qui sont enrôlés par les milices. Est-ce que vous avez une stratégie, bien sûr, une stratégie commune avec d'autres structures qui travaillent pour les enfants là-bas, pour dissuader les milices à libérer ces enfants?
We need to be clear that as a country, there are strategies that has been used to help children who have been.
Oui, c'est vrai qu'il y a une stratégie en place pour répondre à la problématique des enfants utilisés dans le cadre des groupes armés, mais il faut être conscient que la réalité au Kasaï est complètement différente de celle qu'on connaît dans d'autres parties du pays. Et c'est dans ce contexte-là que notre approche et notre réponse est une approche et une réponse spécifique et adaptée à la réalité du Kasaï qui mettent en évidence la protection des enfants et visent à apporter une réponse holistique et intégrée aux besoins des enfants qui est peut-être différent au type d'intervention qu'on peut prévoir dans d'autres parties du pays.
Ok. Une dernière question, Monsieur Lewale. Selon votre rapport, l'UNICEF ne disposerait que des 3,5 millions de dollars pour répondre à la crise du Grand Kasaï. N'est-ce pas là un handicap pour vous pour arriver à vos objectifs?
Thank you very much. I think we just need to qualify that.
Donc les 3,5 millions de dollars dont il est fait référence s'ajoutent au montant et aux moyens financiers dont nous disposons pour notre réponse structurelle dans la région du Kasaï où nous sommes donc structurellement actifs. Cependant, les besoins qui découlent de la crise particulière que vit le Kasaï pour l'instant nécessite que nous puissions avoir accès à un montant de 20,6 millions de dollars américains afin de nous assurer qu'on puisse étendre les programmes à un niveau qui nous permettra de nous assurer que tous les enfants qui sont affectés soient atteints et que leurs droits soient respectés.
Alors là, vous allez appuyer sur le plaidoyer.
Well, I think the advocacy message has always been the same. Children first.
Oui, il est clair que le plaidoyer est un élément clé. Il est important de se rappeler que dans toute la réponse, nous devons donner la priorité aux enfants, les enfants d'abord, parce qu'il faut qu'on se rappelle aussi dans ces conditions-ci que le futur du pays, le futur de nous tous, réside dans le bien-être et le respect des droits de chaque enfant.
Oui, j'allais vous poser la dernière question. C'est peut-être un message, et je pense que c'est un message qui a été donné, les enfants d'abord. Monsieur Oliwale, Radio Kapi vous remercie. Merci.
Merci beaucoup.
La nouvelle de province nous emmène dans l'ex-province du Kasaï occidental. La MONUSCO prête à accompagner la CENI dans la réussite des opérations d'enrôlement des électeurs au Kasaï et au Kasaï central. Le représentant spécial adjoint, David Gressley, l'a déclaré mardi dernier à Kananga où il a passé quelques heures avec une délégation de la SADC et d'autres cadres de l'ONU. Les propos de David Gressley au micro d'André Kambala.
La question d'enrôlement des électeurs, tout le monde veut, y compris nous-mêmes, que ça soit fait comme c'était fait dans les autres provinces, c'est-à-dire que tout le monde ait accès pour l'enrôlement. On a discuté qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour donner appui pour ça, que tout le monde ait accès et la possibilité d'enrôler, ça c'est l'essentiel. Donc on va travailler étroitement avec la CENI, avec les autorités localement pour voir comment on peut vraiment atteindre cette fin. Well, en gros, on était impliqué dans le transport du matériel de Kinshasa jusqu'aux antennes partout dans le pays. Donc ça a été déjà fait. Maintenant, s'il y a des problèmes d'insécurité dans quelques localités, on est toujours disposé de continuer de donner un appui soit logistique ou sécuritaire. Ça va dépendre sur la situation dans chaque localité. On est prêt de discuter avec les autorités qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que tout le monde ait accès pour l'enrôlement. Donc ça c'est à discuter et je crois que ça va dépendre sur chaque localité, mais on est prêt pour ça.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Des casques bleus de la MONUSCO seraient-ils impliqués dans une opération des fosses communes? Écoutez la question posée par un journaliste, mais bien évidemment la réponse de Charles-Antoine Bambara, porte-parole ad intérim de la MONUSCO.
Patrick Félix Tabelli pour CAS Info et RTVS 1. Monsieur Bambara, il y a une vidéo qui circule sur le net qui démontre que les casques bleus étaient en train de jeter les personnes tuées dans une fosse commune. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
C'est vrai que la MONUSCO connaît l'existence de cette vidéo qui est effectivement dans les médias sociaux depuis quelques temps. Malgré la mauvaise qualité des images, le constat établi prouve clairement que cette vidéo a été postée sur YouTube et vous pouvez la vérifier vous-même depuis 2012. Cela n'a donc rien à voir ni avec la RDC ni avec la MONUSCO. Nous dénonçons fermement cet amalgame qui a été fait avec la MONUSCO par rapport à cette vidéo, qui a été fait sans doute dans un pays tiers. La MONUSCO réaffirme s'en tenir à l'application de ses missions telles que confiées à elle dans le cadre des différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et indique que son personnel n'est en rien lié à cette vidéo.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Onésime Mukandila, mon poste nom c'est Nyandou, je suis journaliste à Radio Kapi. mon parcours scolaire, j'ai étudié à l'Institut Baïko, à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Puis les études secondaires et humanitaires, je les ai passées à l'Institut Moulemba et d'API ISP Mbujimaï toujours. Pour ce qui est de l'université, j'ai été à l'IFASIC où j'ai passé 5 ans de journalisme et j'ai fini précisément en journalisme politique intérieur, en l'option audiovisuelle. Parcours professionnel, je suis passé d'abord comme fonctionnaire de l'État. J'étais à la division provinciale de l'information de la communication. Puis j'ai eu à collaborer à la RTNC2 comme co-présentateur d'une émission avec Josette Tomboulamatari. L'émission s'appelait Lecture et Livre pour tous. Dans d'autres médias de la place aussi, j'ai eu à passer quelques temps comme collaborateur. Et finalement, j'ai débarqué à Radio Capi vers 2007, décembre 2007. Et j'ai eu à signer mon contrat comme agent des Nations Unies en 2013, précisément. Comme journaliste à Radio Capi, je suis présentateur du journal en français, présentateur de la revue de presse quinoise, à l'époque aussi la revue de presse africaine et de l'actualité internationale. Pour le moment, je suis en tout cas à la présentation un reporter. Lorsque j'arrive, ce que je fais en premier, je commence par la prière. Naturellement, puisque je suis chrétien, je ne vais pas manquer de le mentionner. Après la prière, comme je travaille très souvent avec Internet, je fouine un peu, j'essaie de farfouiller ça et là, trouver, glaner des informations que je dois diffuser. Pour ce qui est par exemple de la revue de presse, je vois dans les différents sites d'information qui locaux ici, je fouine, je farfouille, je traite en tout cas les informations de façon à les présenter de manière potable au micro pour nos fidèles auditeurs. Voilà sommairement ce que je fais. Alors, de mon temps libre, de préférence, je suis chantre et dirigeant, encadreur, dirigeant de plusieurs chorales de la place, notamment de la chorale Les Messagers de Fatima. C'est à Notre-Dame de Fatima, Angeli Trinitatis, c'est à la paroisse Sainte-Trinité à Matete. J'ai eu également à donner un coup de main à la chorale Sousum Corda de Saint-Damien à Mimosa. Mon temps, en tout cas, je le passe plus en présence de Dieu, puisque j'aime chanter pour Dieu d'abord et avant tout. Pour ce qui est de loisirs, j'aime le football. Je suis un supporter de Barcelone. Mon joueur préféré d'ailleurs, c'est Lionel Messi, pour tous les Barcelonais qui me suivent. Pour ce que j'aime manger, alors mon plat préféré, c'est, je préfère le dire dans ma langue maternelle, Shima Nikaleji Indakal. Alors c'est le foufou avec le feu de manioc accompagné de fretin. Voilà, c'est ça mon plat préféré. Alors pour ce qui est de projet, je n'aime pas trop en parler parce que bon, je me dis l'avenir appartient à Dieu. Dieu seul sait, selon le destin qu'il a tracé pour nous, ce qu'il nous réserve. Je dis grand merci à tous les auditeurs de Radio Capi et à tous ceux qui nous suivent, à tous nos collègues de service.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux rendez-vous parmi tant d'autres à retenir pendant cette première semaine du mois de mai. Le 1er mai, c'est mon anniversaire, mais c'est également la journée mondiale du travail. La division de l'information publique lance à partir du mois de mai donc, à Kinshasa, une série de campagnes de sensibilisation à la connaissance de la résolution 2348 du Conseil de sécurité et à la compréhension du nouveau mandat de la MONUSCO. Le 4 mai, c'est la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies. C'est un plaisir pour moi de vous le présenter. Moi, c'est Tina Salama. À la mise en onde aujourd'hui, Jean-Claude Ntiala. À la coordination, réalisation et au reportage, Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Honoré Missenga, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao, ciao.